rebonjour à toutes, rebonjour à toutes et à tous. On va démarrer. Donc, on a 1h30 à passer ensemble. Le sujet de la conférence de cet après-midi, donc, c'est financement, financer sa reprise, ayez la bonne stratégie. Donc, je vais d'abord vous présenter les personnes, les intervenants donc, qui vont être avec nous pendant 7h30. Tout d'abord, au milieu, vous la reconnaîtrez forcément, donc, Yael Ifrah, c'est la seule femme du plateau. Yael Ifrah, donc, qui viendra témoigner de son expérience. Elle a créé et donc repris un restaurant en novembre 2009. Seront là également à nos côtés Alexandre Corécios. Il est chargé d'affaires pour le réseau Paris Entreprendre, que vous connaissez certainement moins de nom. Et si vous ne le connaissez pas, ben, on fera connaissance justement tout à l'heure. Et enfin, à nos côtés, donc, Jean-Philippe Deltour, qui est le créateur, fondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle Crédit Relax. Crédit Relax, il vous en parlera un peu plus tout à l'heure. C'est d'abord une société de un courtier en financement professionnel, société de courtage en financement professionnel. Voilà. Et puis moi-même, donc, qui travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, je m'occupe de transmission d'entreprise à la CCIP. Voilà. Alexandre, juste un petit mot. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour vous présenter ou pour présenter le réseau Entreprendre en deux petits mots?
Alors, en deux petits mots, on est un réseau de chefs d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait notre différence. Donc c'est vraiment des chefs d'entreprise qui vous accompagnent et vous financent dans votre projet de reprise.
Même question à Jean-Philippe pour présenter rapidement Crédit Relax.
Bonjour à tous. Crédit Relax est une société qui existe depuis bientôt 5 ans et notre métier consiste à accompagner les entrepreneurs dans leur recherche bancaire. Donc nous sommes intermédiaires entre les entrepreneurs et les banques pour des recherches de financement qui concernent des fonds de commerce, des parts sociales de société et toute problématique d'immobilier professionnel.
Voilà, et puis j'ai pas le logo, mais j'aurais bien aimé l'avoir, de Yaïn, donc qui est le restaurant créé par Yael Ifrah, à laquelle évidemment vous êtes tous invités dorénavant jusqu'à jusqu'à désormais. Alors, le plan de cette réunion. Alors, d'abord, on va commencer par le témoignage, justement, de Yael Ifrah, puisque je voudrais qu'on aille directement sur un témoignage, savoir comment ça s'est passé, qu'on rentre tout de suite dans le concret. Donc, première partie. Deuxième partie, à partir du témoignage de Yael Ifrah, on reviendra sur les piliers. Qu'est-ce qui fait le pilier d'une stratégie de recherche de financement? On pense souvent à des choses qui sont liées à monter un dossier de financement pour un crédit bancaire. On pense à toutes ces choses-là, mais il y a des choses qui sont très spécifiques, qui sont liées aux modalités de reprise, aux modalités de reprise. Est-ce qu'on fait des reprises de titres, de parts sociales, ou est-ce qu'on fait une reprise en fonds de commerce? Et puis il y a aussi des choses très importantes qui sont que finalement, quand on finance une reprise, on finance d'abord le rachat d'une entreprise. Donc comment il faut choisir cette entreprise pour qu'elle soit finançable, en fait, pour que vous ayez, vous, les moyens de financer son rachat. Et je crois que c'est un des piliers qu'on verra tout à l'heure ensemble. Et enfin, dans une troisième partie, on verra ensemble les modalités de financement. Et là, on rentrera vraiment dans les choses beaucoup plus techniques, avec comment ça se passe, une commission de prêt d'honneur, comment est-ce qu'on fait pour convaincre son banquier, les taux, les contre-garanties, ce genre de choses beaucoup plus techniques. Voilà. Pour ce qui est des questions, on a pensé que on aimerait avoir 20 minutes ensemble pour répondre à toutes vos questions. Donc si vous pouvez garder les questions pour à partir de 15h10 pour que à ce moment-là les intervenants puissent vous répondre. Voilà, c'est parti. Alors je voudrais donc vous représenter Yael Ifrah rapidement. Yael, je voudrais simplement déjà que vous nous disiez dans quelle activité vous vous êtes lancé au mois de novembre.
Alors, en novembre 2009, donc il y a 2 mois et demi, j'ai ouvert un restaurant, donc qui est un restaurant à vin dans le 17e arrondissement, tout près d'ici. C'est donc de la cuisine traditionnelle française. Pour moi, c'est une reconversion complète, puisqu'en fait, j'ai été pendant 15 ans productrice télé, j'ai travaillé en maison de disques. Et ça a été l'aboutissement d'un très très long processus d'apprentissage aussi bien d'un nouveau métier, donc qui était le métier de restaurateur, et surtout du métier d'entrepreneur et du montage du dossier financier, parce qu'en restauration, on est quand même sur des montants financiers assez importants en rachat de fonds de commerce, et que monter un dossier comme ça, quand c'est une première affaire, qu'on n'est ni fils d'eux, ou qu'on n'a pas été auvergnat, cafetier de toute sa vie...
Attention, il y a des auvergnats toujours dans la salle.
Aveyronnais, pardon.
D'accord. Une question, donc, justement, pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est une reprise, dans la restauration, ça se fait souvent par une reprise de fonds de commerce. Quel était le montant global du projet en termes de financement?
Alors, le montant total du projet tournait autour de 330 000 euros, dont la quasi-totalité est consacrée à l'achat du fonds de commerce, puisque moi, j'ai payé mon fonds 280 000 euros. Donc, vous voyez ce qui reste derrière, sachant que j'ai racheté un fonds sur lequel il n'y avait pas de travaux, mais que de toute façon, en restauration, les banques vont financer le fonds et derrière, pas grand-chose. Je préfère qu'il n'y ait pas de travaux et pour le reste, on se débrouille.
D'accord. Pour revenir sur la partie financement, quelles ont été justement la répartition, alors financement bancaire évidemment sur 330 000 euros auprès de, comment ça s'est passé dans l'approche des banques et dans éventuellement les financements complémentaires style prêt d'honneur dont on parlera tout à l'heure.
Alors bon, moi je parle d'un secteur qui est assez particulier puisque la restauration c'est le secteur où l'effet de levier est le plus faible. Ça veut dire qu'en gros, pour pouvoir financer un restaurant, il faut arriver avec quasiment la moitié de l'argent. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on va demander si on monte une boîte, je sais pas, de sécurité incendie, si on fait du consulting, ça n'a rien à voir. Donc pour moi, le gros boulot en amont, ça a été de constituer mon apport, sachant qu'à partir du moment où je me reconvertissais venant d'un métier qui avait fait faillite, donc l'industrie du disque, c'était pas le moment de ma vie où j'avais le plus d'argent. Donc j'avais assez peu de sous. J'ai emprunté un petit peu d'argent à ma famille. Avec ce premier apport, je suis allée faire une petite tournée d'investisseurs, donc de gens que je connaissais, qui avaient les moyens, l'intérêt pour un projet qui était quand même très personnalisé, parce que j'ai monté un concept de restaurant à vin, cachère, sur un marché de niche, très très bien ciblé, assez bien positionné. J'ai mis dedans toute l'expérience que j'avais en habillage télé, en marketing, en communication, en publicité. Donc il était quand même plutôt bien ficelé. Donc avec ce premier apport à moi, j'ai décroché autant de la part de mon investisseur, c'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai démarré le projet avec 10 000 euros à moi, donc voilà. Mes parents m'ont prêté 30 000 euros, donc ça faisait 40. Avec ces 40, mon investisseur m'a prêté encore 40. Donc là, j'avais 80. Et avec 80, je pouvais commencer à aller voir une banque. Sachant que la banque, évidemment, n'allait pas tout financer, mais qu'il allait falloir que je complète avec des prêts d'honneur. Donc j'ai eu la chance d'avoir une banque qui, par hasard, était justement le Crédit Agricole Quercy-Rouergue, donc la banque des Aveyronnais, qui est spécialisée en restauration, qui m'a suivie depuis le début, que j'ai rencontré hyper en amont du projet. Donc ça fait plus de 3 ans que ma bancaire est au courant du projet, donc bien avant que j'ai ramassé en fait l'argent. Parallèlement à ça, j'ai dû passer mon CAP de cuisine, parce que les banques ne prêtent pas aux non-professionnels, donc il fallait aussi une requalification diplômante. Et quand je suis arrivée avec mes 80 000 euros à la banque, ils m'ont dit « bon, bah là, on va pouvoir commencer à parler ». Donc là, j'ai cherché mon fonds de commerce, parce qu'évidemment, tant qu'on n'a pas un bail avec une promesse de vente, ben, le prêt, il ne se réalise pas. Donc il y a une espèce d'entonnoir terrible de conditions à réaliser qui est un petit peu compliqué à faire collationner. Et quand j'ai eu en vue le fonds de commerce avec un bail, j'ai pu signer une promesse de vente en espérant de toutes mes forces que j'allais avoir un prêt d'honneur. Donc j'ai signé ma promesse de vente le 26 juin et le prêt d'honneur j'ai eu le 3 juillet. Je suis passée en commission le 3 juillet. Donc j'avais déjà mis l'argent en fait de la promesse de vente, donc il y avait quand même un risque perso. La banque était derrière, mais la banque n'avait pas du tout prévu de me prêter, de compléter la hauteur du prêt d'honneur. Donc moi j'avais dû m'avancer en disant « je pense que j'aurai temps de parer initiative entreprise ». Ça s'est effectivement passé comme ça, donc ils m'ont accordé le montant que j'avais demandé. C'est vrai que je les avais rencontrés avant et qui m'avait laissé entendre que c'était possible. Enfin bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et c'est que quand j'ai réussi à avoir tout ça, donc il fallait les preuves, les dépôts de compte bancaire, l'attestation de mon investisseur, le papier de pari initiative, et c'est là que je suis passée en commission bancaire au mois d'août, et qu'en septembre, enfin fin août, j'ai eu l'accord sur le prêt. Donc j'avais déjà signé ma promesse de vente, et ça aurait très bien pu capoter. Il faut savoir qu'en restauration, en gros, il y a un peu plus d'une personne sur deux qui signe une promesse de vente et qui n'a pas son prêt derrière. Donc il y a un très gros risque et pour le vendeur et pour l'acheteur. Voilà, on reprend ses billes après, hein. Mais bon, on perd du temps, on perd 3 mois, il y a des frais d'avocat, etc. Donc voilà comment ça s'est passé au niveau chronologique et au niveau quantitatif pour le montage financier.
Ok, merci beaucoup. Alors on reviendra sur les notions de délai et surtout sur cet aspect très pratique de synchronisation entre le déblocage des différents financements qui peut être, dont on finit a priori toujours par sortir, mais qui est assez stressante et sur lequel je pense que beaucoup d'entrepreneurs se font des sueurs froides. Juste une question encore, Yaël. Je voulais savoir par rapport à, est-ce qu'il a été question à un moment donné de crédit vendeur ou est-ce que c'était des choses qui ont été évoquées ?
Pas du tout.
Non, d'accord. Non. Bon, on reviendra tout à l'heure pour ceux qui savent ce que c'est. En fait, un crédit vendeur, c'est à partir du moment où il y a un prix de vente qui a été proposé par un vendeur, ça fait partie des levées de négociation que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que le prix une partie de ce prix, on pourrait tout, le cédant peut accepter donc de se le voir rémunérer en fait dans 2-3 ans. C'est pour ça que ça s'appelle un crédit vendeur. En fait, le vendeur va lui-même jouer le rôle de la banque. Donc c'est certains montages peuvent sont pas, c'est pas les plus courants, mais enfin on verra aussi avec Alexandre et Jean-Philippe. Enfin Alexandre, je sais pas si c'est quelque chose que vous voyez vous dans les dossiers que vous accompagnez.
Oui, on voit pas mal de crédits vendeurs, notamment sur des grosses reprises sur lesquelles le montage est assez difficile à boucler. Et c'est une stratégie qui peut être assez gagnant-gagnant.
Voilà, donc c'est un levier de négociation qu'il faut avoir en tête, mais effectivement qui joue, à mon avis, peut-être beaucoup moins dans selon les typologies de reprises. Là, sur un fonds de commerce, enfin sur un restaurant surtout, je pense que, comme vous le disiez, il y a effectivement, d'abord, il y a un apport cash à minima qui est assez important, et puis il n'y a pas forcément les mêmes leviers de négociation. Crédit fournisseur, parce qu'on en entend par contre, pour le coup, pas mal parler, souvent en restauration.
Bon, pas du tout. Déjà, quand on a 30 jours, on est content. Donc,
non. Pardon, je me suis mal exprimée. Crédit fournisseur, oui. Je pensais aussi aux fameux encours ce qui existe dans la boulangerie, les fariniers,
ou les brasseurs.
Les brasseurs. Voilà, les crédits brasseurs.
Dans la restauration, quand il y a de la.
Voilà, crédit brasseur. Pardon.
Non, moi, j'ai une aventure avec mon. Effectivement, qui a failli me coûter mon fonds de commerce. Donc, effectivement, je suis passée pour l'achat de mon fonds de commerce. Donc, il y a des agences qui sont spécialisées. Je suis passée par une agence qui se trouve aussi être un brasseur. Donc effectivement, les brasseurs font partie des financiers principaux des fonds de commerce à Paris, enfin en France. Il faut savoir qu'à peu près la moitié des cafés, qui se vendent, restaurants, sont vendus directement par les brasseurs. Ils les vendent entre eux. Donc c'est les maisons Richard, Tafanel, etc., dont on voit les camions dans la rue. Ça passe pas par le marché. C'est eux qui font la banque. Voilà. Moi, j'étais en restauration traditionnelle, donc ça n'avait rien à voir. Mais quand même, mon agent étant brasseur, m'a proposé une subvention brasseur. Donc en fait, c'est un don déguisé qui est censé se rembourser sur des hectolitres de bière qu'on vend. Voilà. Donc il s'est avancé un peu imprudemment, m'a promis les 20 000 euros, a dû subir une grosse opération du cœur, a disparu. Et à la rentrée, les 20 000 euros avaient disparu avec lui. Et moi, j'avais eu mon prêt, Oseo m'avait garanti, le dossier était bouclé complètement. Et donc, en fait, il manquait 20 000 euros. Donc, j'ai renégocié avec la vendeuse. On a baissé le prix de 10 000 euros. Et le monsieur, donc, sa commission d'agence, pour l'instant, il ne l'a pas eu. Parce que c'était 10 000 euros aussi. Donc, il l'aura un peu plus tard. Mais effectivement, ça se fait assez fréquemment sur les gros rachats, en particulier tout ce qui est brasserie. Il y a une grosse partie
souvent,
de financement
voilà.
qui peut être... Ou alors, les travaux peuvent être payés. Enfin, ça peut représenter quelque chose d'assez important.
Oui, parce que vous avez eu la chance de trouver un investisseur. Et lorsqu'on n'a pas d'investisseur, ben, souvent, c'est le brasseur qui vient compléter le prêt.
Voilà, bon, le but étant... alors j'avais marqué dans les petites choses à voir ensemble, mais on peut garder ça pour la fin. Et puis la trésorerie, finalement, comment ça s'est passé? Parce que c'est très bien de parler de financement. Déjà, on voit qu'entre la théorie et la pratique, on y a toujours de belles et grosses surprises. Jusqu'à présent, on va dire que tout va bien aujourd'hui. Et en termes de trésorerie, que ce soit aussi bien par rapport au déblocage des financements, et puis bon, peut-être un petit peu aujourd'hui, mais j'imagine qu'au démarrage, de toute façon, c'est un peu tendu. Mais au niveau de ce que j'appelle la mise en place de ces différents financements, comment ça s'est passé ?
Bah oui, j'ai eu un problème, enfin pas un problème, mais il y a eu un très très gros délai que j'avais pas du tout anticipé, qui a été le délai des blocages du prêt d'honneur. Donc en fait, effectivement, le prêt d'honneur m'a été accordé au mois de juillet. J'ai signé la vente le 19 octobre. Et en fait, pour pouvoir obtenir le montant du prêt d'honneur, il fallait que je vienne avec l'acte de vente enregistré à la trésorerie de l'arrondissement, ce qui prend 15 jours, et surtout avec le CABIS. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un CABIS, quand on fait une cession de fonds de commerce, c'est extrêmement long parce qu'il y a différents niveaux d'enregistrement. Il n'y a pas seulement l'acte de vente, mais tout doit être enregistré. Il y a le nantissement. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de problème, que la vente est licite. Bref. Et en gros, ça prend pratiquement un mois. Donc moi, j'avais un formaliste qui était hyper efficace. J'ai fait beaucoup de démarches moi-même pour faire avancer les choses. Mais en fait, tant que je ne pouvais pas débarquer à Paris Initiative avec mon CABIS en main, il n'était pas question qu'il me signe même le papier qui disait qu'un jour, ils allaient me débloquer les fonds. Donc en gros, la banque m'a avancé une partie de l'argent. L'autre partie, je me suis débrouillée avec la vendeuse. Idem, je lui ai dit que je ne l'avais pas. De toute façon, voilà, c'était comme ça. On n'allait pas annuler la vente pour ça. Et j'ai attendu super longtemps l'argent d'initiative, de Paris Initiative et encore plus longtemps l'argent du prêt NACRE, parce que j'avais 30 000 euros, dont 22 de Paris Initiative Entreprise et 8 000 euros en prêt NACRE, puisque j'étais demandeuse d'emploi. Et en fait, le prêt NACRE, j'ai ouvert mon resto le 16 novembre, et je crois que j'ai récupéré les 8 000 euros, un truc du genre, le 15 décembre, alors que j'avais signé la vente le 19 octobre. Et pour Paris Initiative, j'ai attendu plus d'un mois. Donc ils sont pas décisionnaires, enfin ils disent qu'ils sont pas décisionnaires, en gros ils ont pas les fonds en main. Et tant qu'on n'a pas, enfin le dossier par initiative, faut savoir qu'il est comme ça, hein. Il est deux fois plus épais que le dossier de la banque. Ils demandent des trucs, mais enfin c'est...
Non.
Si, je l'ai déposé, il était comme ça, quoi. C'était assez impressionnant. Et effectivement, c'était très long. Donc là, j'ai eu un petit problème. Bon, ma banque a été plutôt
compréhensive aussi.
Voilà. Mmh. Mais c'est vrai que c'était long. Et je ne m'y attendais pas.
D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ça permet de se réveiller, déjà. Il est 14h15 et là, je pense que tout le monde est bien réveillé. Et pour maintenant revenir un petit peu à la théorie, aux fondamentaux, en retenant quand même cet aspect, je trouve, de temps, de gestion du temps, qui dans n'importe quel projet de reprise, et enfin tous les repreneurs nous racontent un peu la même histoire. Il y a vraiment des moments où c'est la gestion du temps qui est la plus compliquée, avec des phases d'entonnoir assez serrées. Alors, je vous propose de revenir donc aux piliers, enfin aux fondamentaux, pour réussir à aller jusqu'au bout de la démarche. D'abord, effectivement, il y a dans le cas dont Yael Ifra vient de nous parler, on est dans une modalité de reprise bien, bien spécifique, qui est de la reprise de fonds de commerce, c'est-à-dire qu'on achète un actif pour définir la modalité de financement. Enfin, déjà, il est important de savoir ce que vous allez acheter. Et effectivement, vous allez soit acheter un actif, donc un fonds de commerce, par exemple. Par fonds de commerce, on entend dans le cadre d'un restaurant, enfin même en général, un bail, des installations, du matériel, une marque et des clients. Voilà, en gros, ça c'est un fonds de commerce. Se rajoute à ça des stocks, qui ne sont pas compris dans le fonds de commerce, mais en général qui vont faire l'objet d'une négociation à part. Mais la grosse particularité, c'est qu'en fait vous allez créer une structure qui va donc incorporer cet actif. Vous ne rachetez pas l'antériorité de l'activité de l'entreprise.
Mais on prend le personnel, hein.
Tout à fait. Tu as tout à fait raison de le préciser. Il y a par contre la reprise des contrats de travail. Et ça, c'est essentiel, en particulier dans un restaurant, mais quelle que soit l'activité. Tout à fait. C'est tout à fait important de le rappeler. Par contre, la grosse différence, là où je voulais en venir, effectivement, c'est par rapport à un achat de parts sociales. La grosse différence, elle est qu'on ne reprend pas le passif de l'entreprise. Donc, alors que dans le cadre du rachat donc des titres d'une société, vous allez reprendre en fait l'intégralité de l'historique de cette entreprise avec son passif, c'est-à-dire aussi bien ses biens matériels ou immatériels ou matériels, mais aussi tout ce qui est passif, donc les dettes, les procédures en cours, les vices de forme, les vices de clients, enfin tout ce qui est en fait tout ce qui va être généré par l'activité naturelle dans la vie d'une entreprise, vous allez en devenir à partir du moment où vous allez acquérir l'entreprise directement et nouvellement responsable. Alors on verra ensuite que il y a des procédés qui permettent de se garantir de ça, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'une garantie de passif, qui permet à un moment donné effectivement de faire un arrêté des comptes, un arrêté de la situation de l'entreprise à l'instant T. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cédant, la personne qui va vous vendre l'entreprise dans le cadre d'une vente de part, va faire un état des lieux et va dire, voilà, sur tous ces éléments-là, je reconnais que s'il y avait un risque, c'est moi qui suis responsable. Donc c'est déclaratif. Pour que, effectivement, en gros, pour que, puisque vous allez être le nouveau repreneur, donc le nouveau gérant de l'entreprise, le nouveau, la personnalité morale, c'est vous qui allez l'incarner, que vous puissiez vous retourner vers le cédant en cas de problème. Ça peut être des problèmes prud'hommes, ça peut être des problèmes environnementaux, ça peut être tout un tas de choses qui sont liées simplement à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est simplement pour dresser un petit panorama. Il faudrait beaucoup de temps. Il y a des conférences qui ont lieu pendant ces deux jours. Je sais que la Chambre de commerce fait demain une conférence à 9h30 sur justement tout ce qui est juridique, en particulier la clause de garantie de passif. Mais voilà, ça c'est un vrai sujet. On ne va pas du tout l'aborder. Je voulais simplement poser ce point-là parce qu'il est effectivement important dans le financement.
Pourrait-on demander dans l'assistance quelles sont les personnes positionnées sur des reprises de fonds de commerce et celles positionnées sur des reprises de parts sociales? Ça donnerait une petite tendance.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors les plutôt reprises de parts sociales, est-ce que vous pouvez lever la main? Bon, une bonne moitié. Et reprises de fonds de commerce? Ouais. Donc voilà.
Il y en a qui n'ont pas encore identifié
et
la
les
cible.
Et les autres peut-être ne savent pas encore. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, deuxième. Alors, il y a un deuxième pilier, donc déjà modalité, actif, enfin fonds de commerce ou part sociale. Deuxième chose, là, qui nous paraît assez important, c'est une cible qui soit finançable. C'est-à-dire que, en fait, si vous rachetez il va falloir vraiment très très tôt vous poser la question de comment vous allez financer cette entreprise. Et cette entreprise, la première chose, il faut qu'elle soit capable au minimum de supporter la charge financière de l'emprunt qui est nécessaire à son acquisition. Alors ça, c'est une démarche qui est extrêmement vraie, qui marche tout le temps, qui est encore plus vraie pour la reprise de parts sociales. parce que dans la reprise de fonds de commerce, on peut encore, enfin, il y a des biens corporels qui vont se valoriser de façon beaucoup plus claire. Exemple, dans le restaurant, c'est le bail qui va faire 95% de la valeur de l'entreprise. Mais lorsque je suis dans une entreprise sur laquelle il y a une valorisation à partir de parts sociales, il faut que la valeur de cette entreprise, il faut qu'elle ait un lien avec une réalité économique. Et en particulier avec quelle réalité, qui va être votre capacité de financement. Donc, si je développe l'unique et seule formule de toute la présentation, c'est que le prix de cession, le prix d'achat pour vous, c'est égal à quoi? C'est égal à une capacité d'endettement. Aujourd'hui, personne ne peut acheter une entreprise cash, hein, enfin, à moins qu'il y ait des gens dans la salle, mais je pense qu'ils ne seraient pas venus à la conférence, je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est une capacité d'endettement, donc ça va être les prêts d'honneur, mais aussi les prêts bancaires, évidemment. Ça va être AP, ce que j'appelle AP, ce sont vos apports personnels, plus les leviers vis-à-vis du cédant. Et ça, c'est le maximum de ce que vous pouvez payer. Alexandre me disait tout à l'heure que il y a beaucoup plus de... Les dossiers de cession intéressants, enfin, les dossiers d'entreprise à racheter sont rares parfois. Donc parfois, on est 5, 6, 7, 8 repreneurs sur un même dossier. Et du coup, il y a une tendance, on va dire, à l'inflation des prix. Et le problème, c'est que s'il y a quelque chose qu'on peut vous expliquer, s'il y a quelque chose qu'on peut vous apporter aujourd'hui, moi, j'aimerais que ce soit ça. C'est vous avez chacun votre maximum de prix possible. Si vous allez au-dessus de ce prix, vous prenez des risques réels. Et nous, notre conseil, c'est ne les prenez pas. C'est-à-dire, et le prix maximum pour chacun n'est pas le même, puisqu'il est égal au prix de cession, à la capacité d'endettement de l'entreprise. Capacité de l'endettement, on verra plus loin, que c'est la capacité de l'entreprise à supporter pendant 7 ans, en fait, une charge, parce qu'on verra que l'emprunt est en général sur cette durée de 5 à 7 ans. Et donc, il faut bien que l'entreprise puisse, pendant 7 ans, dégager dans son résultat de quoi vivre et rembourser sa dette. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ça dépend de la cible. Deuxième élément, ça va dépendre entièrement de vous. Ce sont les apports personnels. Et le troisième élément, c'est donc les leviers cédants. En deux mots, dans ces leviers cédants, il y a le crédit vendeur que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis Jean-Philippe, je vous pose la question, mais le earn out, en deux minutes, expliquez ce que c'est.
Donc c'est un complément de prix. Certaines sociétés sont valorisées sur une valeur future. Je prends un exemple. Récemment, nous travaillons sur un dossier, une société qui était donc redéfinissait sa stratégie. Elle était positionnée sur de la location et finalement elle arrêtait la location. Elle passait par l'acquisition de matériel pour les louer. Donc sur l'année en cours, on voyait une baisse du chiffre d'affaires. Mais cette stratégie, pourtant, était évidente. Elle allait amener dans le futur une augmentation certaine du chiffre d'affaires. Mais la décision de la vente était actée. Donc une partie du prix a été définie sur une valeur future, donc un complément de prix. Et donc au moment de l'acquisition, un prix, j'ai plus le prix en tête, mais bon, on va dire 70% du montant global a été payé au moment de l'acquisition. Et ensuite, sur la valeur future, il y a 30% qui était donc défini à payer dans le futur, du moment où des objectifs de chiffre d'affaires ou de résultats d'exploitation bien définis soient atteints.
Voilà. Ça, c'est des choses aussi... Alexandre, est-ce que c'est des choses que vous voyez aussi dans des dossiers actuellement? Des clauses de earn-out, justement, de complément de prix, en fait.
Un peu moins, nous. Clairement, donc on est plutôt, enfin, on cherche plutôt des dossiers dits sains, avec une bonne capacité de remboursement qu'on peut voir apparaître dans les résultats de l'entreprise.
Donc on est. Alors excusez-moi Alexandre, pour moi le earn-out a rien à voir en fait avec la bonne santé ou pas. C'est vraiment à un moment donné un élément de négociation sur lequel vont s'entendre le cédant et le repreneur. Dans certains secteurs, ça a du sens, à un moment donné, de se dire, voilà, il y a une partie du prix, quand, effectivement, on est dans des phases de restructuration, des secteurs qui sont en mutation, il y a effectivement une phase d'investissement qui a été prise par le dirigeant précédent, et évidemment, les résultats ne se voient pas encore, et évidemment, il va pas vous les céder pour zéro. Donc, ça peut être, voilà... C'est important que vous l'ayez en tête. On va pas passer énormément de temps dessus. De toute façon, tout ce qui est clause de earn-out se rédige avec un avocat. Ce sont des choses, on définit très clairement les indicateurs futurs sur lesquels... En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Après, vous pouvez dire, on se tape dans la main et ça sera 400 dans un an. Hein. Vous faites comme vous voulez. Mais normalement, une clause de earn-out, ça fait partie de la promesse de vente. Et les indicateurs et les arrêtés des comptes sur lesquels vont être basés c'est-à-dire tous les outils qui vont permettre de déterminer ce prix supplémentaire, sont prédéfinis. C'est-à-dire on dit ça sera sur tel arrêté des comptes, à telle date, etc. Voilà.
Et, si, et pour compléter sur les négociations donc, qui vont avoir lieu courant 2010, sachant qu'il y a pas mal de sociétés qui ont subi des baisses de chiffre d'affaires sur 2009, sûrement le complément de prix sera un bon argument de négociation. Car un cédant qui peut-être ne voudra pas accepter à tort ou à raison de la baisse de la valorisation de sa société l'acceptera dans un premier temps en disant mais si derrière vous arrivez à rebondir parce que je suis persuadé que c'était qu'un passage et que sous deux ans si vous suivez telle stratégie ça redémarrera, pourra récupérer. Donc ça va être un argument de prix, un argument de négociation qui est peut-être essentiel pour 2010 parce qu'on va avoir des problèmes de valorisation et d'accord entre cédant et repreneur.
Voilà, donc... Par rapport à une fois qu'on a vu le problème du prix de l'entreprise, rapidement on va passer sur l'adéquation au projet, c'est-à-dire en fait vous pouvez financer ce que vous êtes capable de prouver que vous pouvez financer en fait. C'est vous allez devoir convaincre un cédant de vous vendre à vous et pas à quelqu'un d'autre, et vous allez devoir convaincre un banquier. Alors un banquier, on sait très bien que ça se passe en commission, donc c'est plutôt les chiffres qui vont parler pour vous, mais votre CV à ce moment-là parlera pour vous. Donc voilà, c'est toute la partie adéquation de projet sur laquelle on reviendra avec Alexandre et Jean-Philippe, mais qui est extrêmement importante dans le choix de votre cible. C'est-à-dire, soyez anticipez les problèmes qui vont venir. Si vous êtes sur un secteur qui est plutôt en train dans le déclin, on vous dira bah oui, mais bon, c'est difficile de financer une entreprise qui est dans tel secteur. Donc il faut anticiper les choses en essayant de déjà d'être conscient des arguments qu'on va vous opposer et puis en ayant un bon retour de ce qui se fait ou pas encore dans le secteur. Voilà, c'est d'anticiper les choses. Pareil sur le potentiel aussi important, oui, ça va être la valorisation de la cible. Ça va être capable, vous, dans votre propre parcours, quel est le plus que vous allez clairement pouvoir amener à l'entreprise. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour vous-même de vous le dire assez rapidement. C'est clairement, est-ce que cette entreprise, elle est faite pour moi et qu'est-ce que je vais vraiment pouvoir lui amener ? Ou qu'est-ce que je ne suis pas capable de lui amener ? Et ça, je pense que c'est très important aussi dans le choix de la cible. Et ça, ce sont souvent vos compétences, vos réseaux, vos savoir-faire qui sont... et là-dessus, on peut quand même... et je ne parle pas du fameux « Ah ouais, non, mais... » Le cédant avait 55 ans, moi j'en ai 45. Normal, je fais plus 15% la première année. Normal. C'est mathématique. C'est l'âge. Donc on ne parle pas de ça. On parle vraiment de qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à cette entreprise dans des délais qui soient raisonnables, parce qu'on ne change pas non plus un outil économique en deux jours. Hein. Ça prend juste un petit peu de temps quand même. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Voilà, on continue dans le panorama de ce qu'il faut financer. Bon, évidemment, bah, faut pouvoir financer le capital, hein, ça c'est vos apports personnels, on est toujours dans la même logique. La dette senior, bah, c'est ce qu'on appelle, c'est le nom, on va dire, dans le business de la transmission qu'on donne à la dette bancaire. La remontée exceptionnelle de dividendes, là c'est un cas particulier lorsque vous avez des cibles, des entreprises qui ont un matelas de trésorerie, enfin... Une réserve de trésorerie, mais qui n'est pas utilisée pour l'activité. Donc il y a toujours des négociations qui vont avoir lieu, qui peuvent à un moment donné rentrer, qui peuvent servir à financer la cible, évidemment. Le crédit vendeur, on en a parlé. Le complément de prix, earn-out, vente d'actifs. Bon, bah, vous pouvez aussi faire comme, je sais pas, Duracell. On achète un gros groupe, on le découpe. Bon, mais enfin, on n'est pas, je pense pas qu'on soit beaucoup dans la salle à être dans ce genre de projet. Et enfin, la facturage et le pré-relais. Bon, je passe rapidement sur ça. Pour revenir sur l'essentiel des choses à financer, c'est donc d'abord ce que vous allez amener en apport personnel. Comme disait Yaël, c'est l'apport personnel ou familial, plus les prêts d'honneur. Juste un petit mot. Vous rappelez qu'il existe aujourd'hui, et je pense que pour les investisseurs, je ne sais pas si c'était le cas, mais est-ce qu'ils ont été sensibles à l'impact, Yaël ? Est-ce qu'ils ont été sensibles à l'impact loi Madelin par rapport à ça ? C'est-à-dire le fait qu'ils puissent...
Oui, moi je pense que mon investisseur, oui, c'est une grosse SS2I, il a monté une holding financière pour ses investissements, oui.
Ça fait partie
d'un plus. Oui.
Voilà, donc bon, savoir déjà que, bah, connaître simplement l'existence de cette réduction d'impôt qui permet parfois, ne serait-ce que pour les proches, parfois, de leur dire, bah, voilà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Il y a une réduction d'impôt égale à 25%, voilà, avec des plafonnés qui, à partir du moment où vous investissez dans le capital d'une PME. Ensuite, on va passer au prêt d'honneur. Je vais passer la parole à Alexandre pour que voilà, vous nous expliquiez donc comment ça marche et surtout quel est le comment fonctionne en fait le réseau Entreprendre aujourd'hui.
Alors, un prêt d'honneur, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir d'abord que c'est un prêt à la personne physique. Donc un prêt d'honneur, c'est un endettement personnel. C'est assez important de prendre ça en compte lorsqu'on va on va se pencher sur ce type de financement. C'est qu'on est impliqué personnellement. L'avantage du prêt d'honneur, donc, c'est que c'est considéré comme du quasi-fonds propre. C'est-à-dire que les banquiers vont pouvoir regarder ça comme un apport personnel supplémentaire, entre guillemets. Ils ne vont pas considérer ça comme un véritable apport personnel, mais ça permet de faire un effet de levier qui est assez conséquent. C'est un prêt généralement à taux zéro. En tout cas, pour ce qui concerne le réseau Entreprendre Paris, c'est un prêt gratuit, donc sans intérêt, sans caution, sans garantie personnelle. C'est un prêt sur la reprise d'entreprise que vous remboursez en 36 mensualités avec donc sans franchise. Il faut savoir que nous, donc sur la création d'entreprise, on accorde une franchise de 18 mois au créateur. Donc ça, c'est dans une démarche de création. La durée, donc je vous ai dit 36 mois, donc c'est 5 ans lorsqu'on est sur une création. Le montant, donc pour vous avez différents organismes qui délivrent des prêts d'honneur. Moi, je vais vous parler de ce que je connais, à savoir le prêt d'honneur que délivre Réseau Entreprendre Paris. On fait des prêts d'honneur de 15 à 50 000 euros, donc, qui peuvent être ensuite complétés par un certain nombre de dispositifs. Et vous avez notamment un nouveau dispositif qui s'appelle Île-de-France Transmission, qui vient apporter un prêt d'honneur complémentaire, qui vous permet de monter jusqu'à 70 000 euros aujourd'hui.
Alors, c'est opérationnel ou pas ?
Oui, c'est opérationnel. Ça fonctionne déjà. C'est nouveau, ça vient de sortir.
D'accord, ok. Donc pour 2010, ça sera opérationnel.
Tout à fait.
Et c'est un fonds qui, si je ne dis pas de bêtises, a été abondé entre autres. Enfin, ça a été organisé par la région, Île-de-France, et par la Caisse des dépôts. D'accord. Et donc aujourd'hui, ça fonctionne.
Voilà, donc j'ai été à la conférence de lancement, c'était il y a quelques semaines. Et c'est officiel, c'est opérationnel.
Et comment ça va se passer donc, par rapport au montant qu'on évoquait donc de prêt d'honneur ?
Donc c'est
vous,
un prêt...
vous êtes, Paris Entreprendre, vous êtes jusqu'à 50, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
D'accord. Et donc là, c'est plus 20 de possible ?
Donc 50 en tout. Et alors, c'est délivré déjà exclusivement par les associations qui délivrent des prêts d'honneur. Et ça vient abonder donc le prêt d'honneur qui est délivré par l'association jusqu'à un maximum de 30 000 euros et sur un montant qui est inférieur au prêt d'honneur délivré. Donc c'est pour ça que je vous parle de maximum avec un maximum de 70 000 euros. Donc mettons que nous, Réseau Entreprendre Paris, on fasse un prêt d'honneur de 40 000 euros. On pourrait monter jusqu'à 30 000 euros pour venir abonder avec le dispositif Île-de-France Transmission.
D'accord.
Maintenant, bon, il y a une chose qu'on regarde très clairement, de très près. Je vous ai parlé de 36 mensualités. C'est donc un remboursement qui est très rapide. Vous divisez 70 000 euros par 36. Vous voyez le montant des mensualités qu'il faut pouvoir sortir et sortir de l'entreprise. Donc, on va bien sûr regarder de très très près la capacité de remboursement des porteurs de projets. C'est pour ça qu'on est généralement quand même sur des montants un petit peu inférieurs. Je vais vous parler donc du réseau Entreprendre, qui est le réseau qui fédère les 39 associations sœurs qui accompagnent donc des créateurs. Le réseau Entreprendre, c'est un réseau national qui a été créé au démarrage par André Mullier en 1986. André Mullier qui était à l'époque PDG de Fildar, donc dans le textile, et qui a dû se livrer à un certain nombre de licenciements. Et avec des amis chefs d'entreprise et son réseau personnel, il a décidé de faire quelque chose pour redynamiser le tissu économique de sa région, le nord de la France. Et il est parti d'un principe très simple, qui est que pour aider à la création d'emplois, il faut aider des entrepreneurs, il faut aider des repreneurs d'entreprise et il faut les former à leur métier de chef d'entreprise. C'est un métier sur lequel il n'y a pas vraiment de formation très clairement établie et sur laquelle qui d'autre qu'un chef d'entreprise en activité peut le mieux aider un jeune créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise. Son idée, c'est Nord Entreprendre, donc la première association du réseau, qui a fait des petits. On est 39 associations sœurs, comme je vous le disais. Et dont Paris Entreprendre. Donc on est aujourd'hui donc la 27e association du réseau. Donc, on est arrivé assez tard en France. Et pour vous parler de Paris Entreprendre, donc on est vraiment un réseau privé composé de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, c'est 200 chefs d'entreprise à Paris qui ont décidé d'aider des créateurs et des repreneurs d'entreprise en partant de l'idée qu'il faut leur apporter deux choses à ces repreneurs et à ces créateurs. C'est d'abord des fonds. Donc on parle de ce fameux financement. Veut dire renforcer les fonds propres. Il y a toujours un manque de fonds propres lorsqu'on crée ou on reprend. Donc ce principe de prêt d'honneur vient vraiment aider à obtenir des effets de levier beaucoup plus efficaces. Et ensuite, c'est surtout l'accompagnement. Donc il est nécessaire d'accompagner les repreneurs d'entreprise pendant une certaine durée. Nous, c'est 2 ans et demi. Cet accompagnement, il est réalisé par des chefs d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on va apporter donc à ces porteurs de projets? C'est d'abord des clubs de créateurs. Une des grosses failles de l'entrepreneur, c'est qu'il va se retrouver souvent dans sa démarche assez seul, avec peu de gens avec qui on va pouvoir discuter de manière totalement transparente. Vous ne pouvez pas raconter la même chose à vos salariés, à votre femme, à vos amis, qui vont toujours trouver ça très bien, à vos actionnaires, à vos clients, à vos fournisseurs. Donc lorsque vous allez avoir besoin d'échanger parfaitement librement sur votre vie d'entrepreneur, il est souvent assez intéressant de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs qui n'ont pas forcément d'intérêt dans votre entreprise, qui n'ont pas investi dedans, qui vont vous écouter avec leur regard d'entrepreneur et de manière totalement désintéressée. C'est ça qu'on essaye d'apporter aux porteurs de projets principalement, à travers donc des clubs de créateurs et de repreneurs. Donc vous avez des repreneurs qui se retrouvent autour d'une table. Généralement, on organise un petit déjeuner ou un déjeuner par mois avec une table autour desquelles les gens échangent sur les bons, les mauvais moments, la subvention qui vient de sortir, l'aide à l'export, comment séduire son banquier, etc. Tous les thèmes sont abordés. Chaque personne qui a un problème va pouvoir mettre son problème sur la table et échanger avec les autres entrepreneurs. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et généralement, donc il y a une vraie émulation qui se crée, donc des entrepreneurs qui font du business ensemble, qui deviennent amis. Et on s'aperçoit après 2 ans et demi d'accompagnement que généralement, les choses continuent sans nous. Ces gens-là sont restés assez solidaires et ressentent le besoin de continuer à se revoir à intervalles réguliers. Ça, c'est quelque chose de très fort.
Quels sont les critères justement pour pouvoir être éligible au dispositif?
Nos critères, je vais parler uniquement de la reprise. C'est d'abord d'être sur une reprise. La mission première du réseau Entreprendre, je vous en ai parlé, c'est le développement d'un tissu économique et notamment la création d'emplois. Donc, nous, on accompagne des PME créatrices d'emplois. Sur la reprise, on regarde des PME quand elles ont au moins au départ 7-8 salariés et un bon potentiel de développement. Parfois, on peut faire moins, on regarde, on fait du cas par cas, mais on va pas, par exemple, accompagner de fonds de commerce ou des entreprises qui, par nature, sont limitées sur la création d'emplois. Donc là-dessus, ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point, nous, on est Réseau Entreprendre Paris. Vous avez des associations sœurs dans tous les départements. Il faut savoir que les associations sont locales. Et donc, il va falloir vraiment regarder, lorsque vous postulez à une association sœur du réseau, votre localisation. On parle à la fois du siège social, mais à la fois aussi de l'emploi et des locaux. Donc voilà, c'est des PME à potentiel, notamment potentiel de création d'emplois. On va être sur une typologie de repreneur qui va avoir des fonds propres. Donc nous, on apporte un prêt d'honneur, 15 à 50 000 euros, vous l'avez compris. On va demander au porteur de projet lui-même d'apporter de l'argent, parce que sa démarche, quand il vient nous voir, c'est d'aller voir des chefs d'entreprise et de leur dire « Messieurs, faites-moi confiance, prêtez-moi de l'argent ». Ces chefs d'entreprise-là, ils vont attendre quand même du porteur de projet qu'il apporte un minimum lui-même et qu'il se mouille financièrement, évidemment. Je voudrais revenir tout de même sur notre accompagnement. Donc j'ai parlé des clubs de créateurs. Le deuxième point qui est très très fort, c'est l'accompagnement personnalisé par un des chefs d'entreprise. Donc chez Réseau Entreprendre Paris, il y a 200 membres adhérents et un de ses 200 membres adhérents va devenir l'accompagnateur personnalisé du porteur de projet.
Ouais, c'est
du un peu son parrain, son confident, et va le rencontrer tous les mois, l'aider à prendre du recul sur sa stratégie. Donc ça, enfin, c'est vraiment des gens qui sont des bénévoles, qui vont apporter ça de manière totalement désintéressée. Et je vous dirais même, ils vont payer pour ça, puisque nos financements, ils sont en grande partie privés. Donc 60% de notre budget de fonctionnement, c'est des fonds privés qui sont apportés par ces chefs d'entreprise, donc qui donnent beaucoup de temps pour aider des repreneurs et qui vont être capables de signer un chèque pour ce faire. Donc c'est aujourd'hui, il faut vraiment saluer le geste des membres du réseau Entreprendre Paris.
Ok. Peut-être que Alexandre, oui. Je suis désolée parce que je suis en même temps, j'ai un petit œil qui reste bloqué sur ma montre. Et en fait, le temps passe très très vite. Par rapport à ce que vous souhaitiez apporter comme complément d'information, moi je voulais juste une dernière question. C'était en gros rapidement sur le process, comment ça se passe
très
en
bien.
Termes de temps et à quel moment il faut venir vous voir. Voilà.
Je vais aller très vite. Aujourd'hui, on reçoit 250 projets par an, donc de la création et de la reprise. Sur ces 250 projets, on demande des personnes qui ont un business plan finalisé. Sur la reprise, c'est très simple. On attend la contre-signature de la lettre d'intention par le cédant. Donc, on a besoin de savoir que la reprise va se faire. Et on essaye de se situer, d'être réactif, d'aller très vite entre cette contre-signature par le cédant et le closing. Donc l'idée étant bien sûr de venir faire un effet de levier bancaire. Parfois on arrive un tout petit peu après, on apporte, on va dire avec notre financement, le petit matelas de sécurité qui va permettre de sécuriser le montage. Sur ces 250 dossiers qu'on reçoit, on en reçoit environ... On discute avec environ 150 personnes qu'on reçoit individuellement. C'est des chargés d'affaires comme moi qui vous reçoivent, qui discutent avec vous de votre projet. On essaye de bien voir si tous les éléments du business plan ont été pensés, si on a un prévisionnel solide, si on a bien analysé la cible. Et puis ensuite, on va vous orienter vers des chefs d'entreprise du réseau. Je vous ai parlé de ces 200 chefs d'entreprise. Vous allez en rencontrer 6, un par un, qui vont vous apporter un regard toujours assez différent, parce que ces chefs d'entreprise, ils sont dans tous les secteurs d'activité. Et on va essayer de trouver un regard un peu à 360 degrés sur votre projet. Vous allez voir des experts comptables, vous allez voir des avocats, vous allez voir des experts dans la communication, plutôt dans le management, les ressources humaines, sur le secteur d'activité très précis qu'aborde la reprise et l'entreprise cible. Enfin, voilà, on va essayer d'avoir le regard le plus complémentaire possible sur le projet. Il va en ressortir une étude assez poussée du projet et on va créer un dossier de synthèse qui va vous permettre ensuite de pouvoir défendre votre projet devant un comité composé de chefs d'entreprise et qui va dire oui ou non à l'unanimité sur votre projet lors de ce comité de sélection qu'on organise. Tout le processus dure entre 6 semaines et, pour les dossiers qui traînent, 3 mois.
Ok. Bon. Je vous propose... merci beaucoup, Alexandre. On va avancer parce que le temps passe. Et puis, là, maintenant, donc, on a vu comment on pouvait renforcer ses apports personnels. Je ne vous ai pas parlé des investisseurs. En tout cas, on a eu le témoignage de Yalifra. Le but, c'est pas de passer longtemps là sur tout ce qui est fonds d'investissement. Ça sera un autre sujet. Donc, on avance là maintenant sur pour arriver au juge de paix, l'arbitre final, celui qui siffle ou pas à la fin du jeu, donc avec tout ce qui est financement bancaire. Je passe là-dessus. Alors, juste un petit rappel sur financement bancaire. Peut-être en deux mots, le financement bancaire, lorsqu'on rachète une entreprise, se fait via un montage qui s'appelle le montage en LBO. Le principe est assez simple. Permet de... On passe directement à ce petit schéma. C'est la création d'une entreprise, en fait, d'une holding de rachat qui va détenir les parts, en fait, de l'entreprise cible. L'emprunt bancaire, va être porté par cette fameuse holding. L'intérêt étant qu'à partir de ce moment-là, les intérêts de l'emprunt vont pouvoir être considérés comme des charges de la holding, donc déductibles. Et d'autre part, on a un régime fiscal intéressant qui va permettre, en fait, de faire remonter tous les dividendes, tout le résultat de l'entreprise cible vers la holding afin de payer ce qu'on a mis là, c'est-à-dire les remboursements et les intérêts. Ça, c'est un résumé très rapide, mais le LBO, en deux mots, le LBO, on va dire, pour la repreneur personne physique, ou même pour les repreneurs en personne morale, mais je dirais pour des entreprises de taille, de petite taille ou de PME, c'est, ça fonctionne comme ça, c'est pas beaucoup plus compliqué, et en plus, les banquiers, je pense que, voilà, ce type de montage, tout le monde maîtrise, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était un petit rappel. Qu'il est important d'avoir en tête pour quand même comprendre la logique.
Je me permets de rajouter juste un point, parce que beaucoup de clients nous demandent quelquefois pourquoi je ne rachèterais pas moi personne physique. Mm-hmm. Donc ça a été dit dans la présentation, c'est en fait très simple, pourquoi on crée une société au-dessus qui rachète les parts, c'est pour pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, parce que si on s'endettait personne physique, on n'aurait pas cette capacité à déduire, et donc la charge serait pleinement supportée. Donc c'est pour cette raison qu'on est obligé de créer une structure au-dessus qui rachète les parts sociales.
Voilà, tout à fait. Alors Jean-Philippe, on va attaquer justement le problème des financements bancaires. Bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut créer d'holding, mais pareil, on se donne rendez-vous, on fait une autre conférence sur le sujet. Pour revenir au problème donc du financement bancaire, donc Crédit Relax, donc votre société a accompagné. Alors j'ai mis 450 projets, pardon, je rectifie, c'était depuis 2005.
C'est ça.
Voilà. Et puis je reviens rapidement sur le montant des prêts que vous avez négociés en fait pour vos clients, puisqu'en gros c'est ça. C'était donc pareil, 80 millions d'euros, mais là pareil, c'est sur depuis 2005.
Non, c'était l'année dernière, quoi. Mais
d'accord.
Bon, c'est bon. En gros, on a accompagné 450 projets. En moyenne, on en traite maintenant à peu près. On est sur une croisière de 150 à 200 par an depuis l'année dernière. Nous accompagnons trois types de clientèle, qui sont les artisans commerçants, les franchisés. Et les PME. Nous intervenons sur des financements, comme je disais en introduction, des parts sociales, des fonds de commerce et de l'immobilier professionnel. Notre métier de conseil consiste avant tout à travailler avec vous dès le début du projet pour valider que le projet est cohérent. Donc on travaille avec vous sur la valorisation de la société, sur valider que votre profil est en adéquation avec la cible reprise, que vous disposez d'apports nécessaires pour réellement être capable de rembourser ensuite ou d'assumer les échéances d'emprunt. Et ensuite, nous transmettons le dossier après constitution à nos partenaires bancaires, et nous avons développé en 5 ans un réseau de partenaires bancaires au niveau national. Ensuite, ce que nous apportons, pour finaliser la présentation, nous ne sommes pas des chasseurs de taux, car un financement professionnel, à contrario d'un financement particulier, le taux n'est pas le seul élément important, mais il y a des assurances, il y a des cautions, il y a des frais de tenue de compte, il y a des commissions carte bleue qui peuvent être payées par vos clients. Donc ce sont tous ces éléments, évidemment, qui font partie intégrante du financement professionnel que nous essayons d'optimiser. Voilà, avec vous.
Alors justement, en deux mots, donc on va partir du, on va revenir sur ces fameux éléments dans la méthodo, enfin, qui sont effectivement bon, ce que Crédit Relax fait, mais que de toute façon, tout repreneur, tout porteur de projet, à un moment donné, vous allez devoir en passer par là. Donc, on commence par le dossier bancaire, Jean-Philippe, rapidement. Ce dossier, quelles sont les parties importantes de ce dossier?
Donc le dossier bancaire, bon, c'est la clé de voûte du projet, et il est essentiel que ce projet soit complet. Le premier conseil que je vous donne, c'est aller rencontrer un banquier avec un dossier incomplet, ça va vous rassurer, mais là, ça ne fera pas avancer la décision, car une décision ne peut être prise que lorsque le dossier est complet. Donc il faut prendre le temps, mais quand on rencontre le banquier, il faut arriver avec un dossier qui comprend trois volets. Un volet sur, premièrement, le porteur de projet. Donc dans ce volet, il est essentiel de se présenter, de montrer son parcours. Le banquier sera aussi évidemment intéressé à regarder des éléments financiers vous concernant, à savoir des avis d'imposition, des relevés de compte, pour identifier si vous avez des charges à côté et pour valider un petit peu si demain, en parallèle de votre rythme de vie aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir absorber le remboursement. Globalement, des éléments aussi concernant votre patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments demandés par le banquier pour le patrimoine, beaucoup de personnes s'inquiètent en disant, mais bon, si je montre que j'ai du patrimoine, c'est pas possible. Non, au contraire, c'est très bon signe, quoi, parce que en général, quand on entreprend, nous, nos porteurs de projet, ils sont entre 30 et 40 et 45 ans. Donc, pour un banquier, logiquement, à ces âges-là, c'est logique d'avoir déjà constitué un patrimoine. Donc, il vaut mieux finalement arriver avec une acquisition récente où on est endetté à 100% plutôt que de dire, ben non, à ce jour, je suis toujours locataire et j'ai pas trouvé les moyens d'acquérir un bien. Donc, le patrimoine rassure le banquier. Ça, c'est pour la partie Porteur de projet.
Porteur de projet.
Ensuite, le deuxième, c'est la cible. Donc là, c'est évidemment, c'est essentiel, c'est pouvoir donner tous les éléments sur la société ou le fonds de commerce que vous souhaitez racheter. Donc ce seront évidemment les éléments financiers. Donc les derniers bilans. Dans le cas d'une reprise de part sociale, les statuts, car lorsqu'on reprend une société, ben on reprend les parts sociales, donc les statuts sont essentiels. Le bail commercial, qui est aussi évidemment une pièce très très importante, car quand on reprend une société, on n'a pas toujours la possibilité de racheter les murs, et les sociétés donc sont locataires de leurs locaux. Donc là, un conseil, il est très important lorsqu'on reprend une société ou un fonds de commerce de bien de négocier le bail commercial, parce qu'un bail commercial en général sont basés sur sur 3, 6, 9 ans, et un bail commercial qui arriverait à échéance, il peut être intéressant au moment de l'acquisition de pouvoir renégocier un bail neuf pour pouvoir s'assurer sur les années à venir et les années de remboursement de l'emprunt. D'une charge qui sera définie et qui ne sera pas amenée à augmenter dans le futur. Aujourd'hui, ce qui est parfait, c'est pour les personnes qui sont en train d'acquérir des sociétés, c'est le moment idéal parce que les bilans vont sortir et donc évidemment les banquiers se positionnent sur les éléments les plus récents et venir aujourd'hui racheter des parts sociales avec des éléments de 12 mois, comment qui se positionnera. Donc là, les bilans arrivent, donc c'est une bonne période pour justement se positionner et pouvoir avoir des éléments très récents sur la santé financière des sociétés à reprendre. Le troisième, c'est le projet de reprise. Donc là, sur le projet de reprise, ce sont principalement donc ce qu'on appelle communément le business plan, dans lequel vous allez définir principalement toute la stratégie de la société, les raisons de l'acquisition, expliquer les raisons aussi peut-être du cédant, de se retirer. Ainsi que tous les éléments prévisionnels, principalement de résultats. Donc tout le dossier prévisionnel fera partie de ce volet. Plus d'autres éléments qui sont mentionnés, avec évidemment la lettre d'intention ou le protocole de cession de part ou la promesse de cession de fonds de commerce, qui est donc l'élément essentiel qui valide qu'un cédant et un repreneur se sont mis d'accord sur un montant et laisse un temps défini au cédant pour aller chercher son financement. Et donc aujourd'hui, il est assez important, du moment où on s'engage sur un fonds de commerce ou sur des parts sociales, de laisser un temps suffisamment important. Sur des parts sociales, on serait plutôt sur 3 mois. Sur un fonds de commerce, on peut être sur des périodes plus courtes. Mais le cédant qui demande, sous 45 jours, de disposer du cash, c'est impossible. Donc il faut bien lui expliquer qu'il faut laisser le temps aujourd'hui pour réellement avoir le temps d'aller chercher le financement.
De toute façon, par rapport à tous ces aspects, je dirais très techniques, il est important que vous soyez repreneur ou que vous soyez déjà en relation avec des cédants. L'information sur ces choses-là n'est pas forcément si transparente, enfin n'est pas forcément très très bien partagée. Donc vous pouvez aussi vous retrouver face à des cédants qui n'ont pas forcément intégrer toutes ces choses-là. Donc, à la limite, vous pouvez soit les renvoyer vers des professionnels, soit les renvoyer vers les chambres de commerce, parce que parfois, on se rend compte aussi dans des phases de négociation qu'il y a aussi en fait des données assez qui nous paraissent assez, je dirais, basiques pour nous qui sommes dans ce métier-là. Et en fait, tout le monde l'a pas forcément en tête. Du coup, il y a des espérances ou des attentes qui sont déçues, alors qu'en fait elles n'ont même pas lieu d'être. C'est pas comme ça que ça marche, quoi.
Ok, donc je rebondis sur l'apport personnel parce que c'est très important en lien avec ce que vous venez de dire. Quand on parle d'apport personnel, l'apport doit être disponible. Ouais. Donc sur une reprise en moyenne, nous serons sur entre 20 et 50% d'apport personnel. On peut être sur des montants de 20% lorsqu'on reprend la société dans laquelle on travaille, par exemple, parce qu'on va pouvoir justifier au banquier qu'on la connaît parfaitement bien et donc l'apport pourrait être plus faible. Mais quand on parle d'apport personnel, c'est d'apport disponible. Aujourd'hui, des personnes qui, par exemple, souhaitent racheter un fonds de commerce ou des parts sociales en disant « je suis en train de vendre ma maison », mais qui n'auront pas vendu la maison avant d'acquérir la société, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de pré-relais, par exemple, sur comme il existe dans le particulier. S'il y a des prêts familiaux, il ne faut pas hésiter à les montrer, ou à dire voilà, avoir des lettres qui le justifient, mais c'est un élément extrêmement important. Car le banquier vient compléter cet apport personnel, donc il faut pouvoir le justifier et qu'il soit disponible. Voilà. C'est très important, ça, parce que beaucoup de porteurs de projets pensent que simplement en disant « j'ai l'apport, je peux en disposer », ça suffit, il faut réellement pouvoir le prouver.
Alors, je voudrais qu'on passe à un aspect important qui est, dans les critères d'analyse, le profil du porteur de projet, on en a parlé, l'apport, vous venez de le dire. Rapidement aussi sur la valorisation et le cash flow, peut-être revenir sur quelle est l'approche, en fait, un banquier, comment il va réfléchir par rapport aux fameuses liasses qu'on va vous amener. Donc, j'amène mes trois liasses. Qu'est-ce qu'il regarde et c'est à partir de quel chiffre qu'il va travailler pour répondre ou pas? Qu'est-ce qui fait que mon dossier passe ou ne passe pas, en fait?
Les trois points importants, les trois axes d'analyse sont le profil du porteur de projet, l'apport et la valorisation de la société. Ce qu'identifie le banquier, c'est que réellement il n'y ait pas deux de ces axes qui soient un petit peu faibles. Si par exemple on a peu d'apport mais qu'on a un super professionnalisme et une société de qualité, il n'y a pas de problème, ça va passer. Mais du moment où on se retrouve avec peu de professionnalisme et peu d'apport, là ça devient compliqué. Sur la partie ensuite financière, le banquier raisonne par le bas. Il regarde une société, il va regarder les différents bilans et il va voir quelle est la rentabilité de la société. Et très simplement, c'est simplement une approche logique, on va regarder quelles sont les charges qui peuvent être traitées. Donc peut-être que la personne qui à l'époque était à la tête de la société avait un train de vie supérieur à celui dont le repreneur aurait besoin. Donc tous ces éléments peuvent être revus et donc on va retraiter le résultat. Par exemple, on réussit à négocier une baisse du bail commercial, comme je vous le disais tout à l'heure, ça arrive très souvent, hein, que finalement on renouvelle et qu'on arrive à obtenir des loyers à la baisse. Bon, mais tous ces éléments vont être pris en compte pour, en partant du résultat net affiché aujourd'hui, et en définir une capacité de remboursement. Et à partir de cette capacité de remboursement, on peut identifier le montant d'emprunt que vous pouvez être capable de rembourser.
En général, sur la reprise de parts sociales, enfin en PME-PMI, c'est 70% à peu près. C'est-à-dire qu'on garde 30% du résultat pour les coups durs, on va dire, c'est un minimum, quoi. Pour les imprévus, et puis en gros, le banquier s'attend à avoir 70% de la. Enfin, va se baser sur les 70% de la CAF, ça peut.
Sur les parts sociales, oui. On identifie donc la société cible, le résultat de la société cible, 70% doit être utilisé, mais c'est une règle, hein, mais des fois on peut aller un peu au-delà, mais 70% peut être utilisé pour le remboursement de l'emprunt, donc annuité, capital et intérêt.
Ok. Sur la durée, bon, on va très rapidement, c'est 5 à 7 ans, vous l'avez dit,
ouais,
Jean-Philippe,
c'est assez normé, ouais. On est sur des parts sociales, fonds de commerce, on est entre 5 et 7 ans, et sur de l'immobilier, on est en général sur des durées de 15 ans, sur des financements crédit bail ou crédit classique sur l'immobilier.
Alors je voudrais qu'on aille sur une partie très importante, on ne peut pas, parce que je voudrais qu'il reste aussi du temps pour les questions, sur le problème des garanties et surtout sur le problème des contre-garanties, qu'on ait le temps d'en parler. Donc alors attendez, voilà. La durée, on l'a vu, donc pardon. Voilà, le problème des garanties bancaires, avec une question très directe là sur le PowerPoint, sur le slide, vous voyez à peu près les différentes modalités de garantie qu'un banquier est susceptible de prendre sur le prêt qu'il va vous faire. Moi, j'ai une question que je pose à tout le monde, donc à Yael, à Alexandre et à Jean-Philippe. Alors, une caution personnelle, oui ou non? On la prend, on la donne, comment on fait? Peut-être on va commencer par Alexandre et puis après Yael nous dira si...
Alors... Nous, enfin, je pense qu'il n'y a souvent pas le choix, en fait. C'est-à-dire que la caution personnelle... J'ai tendance à dire, si vous arrivez à obtenir le fait de ne pas du tout en accepter vis-à-vis de votre banquier, félicitations, bravo. J'imagine que vous avez beaucoup d'apports personnels, un dossier de reprise excellent et que les banques se battent pour l'avoir. Et vous avez réussi à les mettre en concurrence. Mais généralement, oui, les banques vous demandent un minimum d'effort en vous impliquant et en apportant une caution personnelle. Et malheureusement, souvent, on ne peut pas y couper. Le petit conseil que je peux donner là-dessus, c'est de mettre les banques en concurrence et essayer de négocier une caution personnelle la plus basse possible.
Yael, est-ce qu'il y a eu des garanties et est-ce qu'il y a eu une caution personnelle sur le montage?
Oui, moi j'avais fait des dossiers pour trois banques et les trois banques m'ont donné leur accord. Et j'avoue que ce qui a emporté ma décision, ça a été plus le montant de la caution personnelle que le taux du prêt. Parce qu'en fait, le taux du prêt, je sais pas, un dixième ou deux dixièmes de points font vraiment pas une très grosse différence au niveau mensuel. Par contre, si on a un gros pépin, la caution personnelle, on la sent très vite passer. Donc moi, j'ai eu la chance que Oseo m'a garanti le prêt à hauteur de 70%, ce qui était relativement élevé pour ce genre d'achat. Et la banque a pris 5%. Donc moi, je suis garantie personnelle à hauteur de 25% de mon prêt. Sachant que, par exemple, le Crédit Lyonnais m'a proposé un prêt avec un taux à peu près équivalent. Je sais pas, j'ai emprunté un 3,80, donc peut-être un cinquième, enfin, je dois être 3,75. Mais par contre, il me demandait 50% de caution personnelle. Donc, voilà.
Juste un petit point à vérifier absolument lorsque vous signez des clauses pour une garantie personnelle, c'est de bien vérifier qu'elle est prévue sur l'encours et non pas sur le montant total du prêt, parce que c'est deux choses très différentes.
Jean-Philippe, par rapport aux garanties et contre-garanties.
Alors oui, ça me permet de rebondir sur les contre-garanties, parce que donc les contre-garanties sont là pour venir baisser votre caution personnelle. En deux mots, les contre-garanties viennent accompagner les banques et viennent prendre part au risque sur le financement qui est octroyé. Donc les principaux acteurs, le principal acteur sur les transmissions de parts sociales est Oseo. Sur les fonds de commerce, il y en a d'autres qui sont positionnés, parce qu'il y a Oseo, il y a aussi la CIAJ, et des banques mutuelles ont aussi en interne leur propre organisme de contre-garantie, la SOCAMA pour les banques populaires, la SACEF pour les caisses d'épargne. Depuis 2009, les banquiers demandent plus systématiquement des contre-garanties. Donc finalement, aujourd'hui, ces organismes sont plus sollicités, et les délais sont un peu plus longs pour l'octroi de crédit. Mais l'intérêt donc de passer par ces organismes de contre-garantie, c'est que la quotité prise en charge par ces organismes vient déduire d'autant votre caution personnelle. Quelquefois, ils essayent de prendre un peu plus. La preuve, il restait que 30 et non 50, donc ça peut arriver. Mais en général, lorsqu'on a un cautionnement à 50% d'Oseo, derrière, le banquier, logiquement, ne peut aller chercher que 50%, parce que logiquement, c'est dans le contrat d'Oseo, que 50% de caution supplémentaire.
Par rapport aux contre-garanties, est-ce que c'est clair pour vous? Parce que, en fait, le problème, il est que, comme vous le disiez, en fait, la caution personnelle, si on vous la demande, bah oui, vous allez l'accepter jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est souvent des questions sur lesquelles vous n'avez pas tant de marge de manœuvre que soit. C'est pas oui ou non. Mais par contre, il est important pour vous que vous compreniez comment les banques fonctionnent pour pouvoir mieux discuter avec elles. C'est-à-dire, voilà, une banque va systématiquement chercher à se garantir de l'argent qu'ils vont vous prêter. Pour cela, ils ont un certain nombre d'organismes qu'on a évoqués, Oseo, etc. Et du coup, en fait, toute parfois, la marge de négociation, d'où l'intérêt de vraiment d'avoir plusieurs banques, d'en contacter plusieurs, ça va être aussi sur cet aspect-là. Parce qu'effectivement, là, c'est la banque qui doit faire son métier. C'est pas à vous, hein. Là, voilà. Vous y êtes pour rien.
Et à vous de demander donc aux banquiers s'ils ont l'intention d'aller solliciter des organismes de contre-garantie, que ce soit Oseo, CIAJ, sachant que je vous conseille de ne pas aller les voir directement, ces organismes, parce que eux, ils attendent que les dossiers soient extrêmement complets. Et donc, pour Oseo, c'est bien clair, ils ne se positionnent que si la banque donne son accord. Donc, la banque donne son accord et elle dit « Ok, je souhaite avoir un accompagnement d'Oseo ». Et à ce moment-là, Oseo regardera le dossier. Donc, si vous essayez de les solliciter, quelque part, vous n'aurez pas de réponse, mais vous allez faire perdre du temps pour toutes les autres personnes parce qu'ils devront prendre du temps à vous répondre. Donc, le banquier, c'est à lui, du moment où vous avez constitué avec lui un dossier complet, de faire le relais. Il travaille avec eux régulièrement et il fait le relais auprès de ces organismes. Mais idéalement, ce qui est bien, c'est si le banquier propose de le présenter à Oseo, dans le cas d'un fonds de commerce, hein, de lui demander aussi de le présenter à la CIAJ. Aujourd'hui, les financements sont plus compliqués. Les décisions de ces organismes peuvent varier suivant les projets. Donc il faut optimiser les chances et ne pas simplement miser sur un seul intervenant.
On va avancer donc sur les aspects mise en concurrence. Je pense que on l'a déjà un petit peu rapidement évoqué. Je voudrais toujours garder du temps pour juste une remarque peut-être sur les poules bancaires, Jean-Philippe.
Sur les poules bancaires et sur les choix des banques, il y a deux types de banques en France. Il y a des banques nationales, des banques mutuelles. Les caisses d'épargne, les crédits agricoles, les crédits mutuels c'est des exemples de banques mutuelles qui ont un pouvoir régional. Des banques comme la Société Générale, la BNP ou le LCL, même s'ils ont évidemment aussi, ils peuvent être décentralisés certaines décisions, ils ont une organisation nationale. Donc leurs approches sont différentes suivant les dossiers. Donc c'est intéressant d'approcher des banques et d'aller voir, de faire un bon panaché dans sa sélection, d'aller voir à la fois des banques mutuelles que des banques nationales. Et aujourd'hui, on identifie plus régulièrement que par le passé des banques qui, finalement, souhaitent partager le risque sur des montants plus faibles qu'on aurait pu imaginer auparavant. Aujourd'hui, à partir de 800 000 euros, des banquiers peuvent être amenés à demander un pool bancaire. Donc ça sous-entend qu'il faut aller chercher deux banques. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un intervenant supplémentaire. Ça complique un petit peu plus et ça rallonge le crédit. Donc derrière, il faut évidemment être bien, bien organisé. Et OSEO, c'est important de le préciser, sur les reprises de société, accompagne en contre-garantie, mais aussi en prêt bancaire. Et là, dans ces conditions, si réellement donc, vous êtes sur une reprise et que vous souhaitez solliciter OSEO, ce n'est pas sur la contre-garantie, mais sur du financement. Là, vous pouvez les contacter, parce que c'est OSEO financement. Et c'est pas la contre-garantie. Donc là, vous devez aussi, évidemment, les rencontrer, parce que vous devez leur vendre votre projet. Et ils accompagnent beaucoup, beaucoup de projets. Donc il faut aussi les solliciter sur des reprises de parts sociales.
De parts sociales, oui. C'est important de le préciser.
Ils n'interviennent pas sur des financements de fonds de commerce. Ils interviennent sur des parts sociales, sur des financements immobiliers. Ils peuvent intervenir.
Et là, effectivement, ils se comportent comme une banque classique. C'est-à-dire que le dépôt du dossier et la présentation du dossier va se faire comme une autre banque, c'est-à-dire avec une démarche en direct. Alors rapidement, là-dessus, parler un petit peu des taux. En ce moment, vous pouvez nous...
Donc aujourd'hui, les taux sont particulièrement bas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc la situation est qu'il est plus difficile de trouver des financements qu'en 2008. 2009, c'était pas facile. Et je pense que 2010 sera toujours une année de transition assez compliquée pour trouver des financements. Donc dur de trouver des financements. Mais si on les trouve, ils sont pas chers. Donc bon, c'est déjà un bon point. Et suivant les banques, il peut y avoir des écarts assez importants. On identifie aujourd'hui jusqu'à 1,5 point sur des acquisitions de fonds de commerce ou de parts sociales. Un superbe taux, c'est 3,50 aujourd'hui en fixe. Donc c'est vrai que c'est pas très, ça paraît pas très élevé. Mais comme le disait Yaël, le taux n'est pas le plus important, et j'insiste bien là-dessus, c'est bien vrai. Quoi. Ce qui est important, c'est la relation avec le banquier. Derrière, ils suivent sur le projet, qu'ils suivent sur le montant, et qu'il a l'air d'avoir bien compris votre projet, parce que vous aurez sûrement besoin de lui dans le futur, pas seulement pour l'acquisition, mais peut-être pour d'autres points. Donc il vaut mieux accepter une offre plus chère, du moment où on est sûr d'être bien compris. Petit point rapide sur les taux variables. Aujourd'hui, on est sur un marché qui affiche des taux relativement bas, et il nous est arrivé récemment de trouver des taux variables capés, donc avec un bloqué à la hausse, qui finalement étaient de meilleure qualité que les taux fixes que l'on puisse trouver. Donc n'hésitez pas, lorsque vous êtes en phase finale, que vous avez obtenu l'accord bancaire, c'est là que vous négociez ensuite les taux, parce que quand on présente un projet à un banquier au niveau professionnel, on lui demande pas un taux, on lui demande déjà un accord, et quand on obtient un accord, on négocie les conditions. Donc de lui demander de se rapprocher de sa salle de marché pour identifier si aujourd'hui, peut-être, il n'y a pas des taux variables capés qui sont intéressants, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant, parce que les personnes qui travaillent en salle de marché, ils sortent des nouveaux produits, et quelquefois, il peut y avoir des bonnes surprises. Donc la question est à poser, quoi.
Bien sûr, les taux que tu as cités, Jean-Philippe, sont hors assurance.
Bien sûr, évidemment, oui, bien sûr, c'est des taux hors assurance. Hein.
Alors, je vous propose qu'on prenne quelques questions, comme ça on aura le temps ensuite de conclure. Et je demanderai d'ailleurs à mes intervenants, comme ça vous pouvez vous préparer, nous donner s'il y avait un conseil dans la recherche de financement et dans la stratégie financière. Maintenant, je voudrais qu'on passe aux questions. D'accord. Et après, on viendra, on prend déjà quelques questions, comme ça pour être sûr de... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle et après on... Alors, je crois qu'il y a une notaire qui peut nous accompagner. Comme ça, moi, j'entends très bien, vous êtes au premier rang, mais pour la personne qui est au fond, ça va être plus compliqué.
Merci. Je voudrais juste revenir sur les contre-garanties qui sont de plus en plus importantes. J'ai bien compris le fait qu'il fallait attendre que le dossier soit complètement bouclé par le banquier qui allait proposer donc le dossier auprès d'OSEO. Est-ce que pour autant, il n'est pas important ou nécessaire d'essayer de séduire soi-même directement OSEO, puisque finalement, si la contre-garantie n'est pas obtenue...
Sur un fonds de commerce, sur des parts sociales.
Non, parts sociales.
C'est le banquier qui derrière, OSEO demande que le banquier transmette le dossier. Donc vous pouvez le faire, mais quelque part vous allez à l'encontre de l'organisation et ils regarderont pas votre dossier. Ils vont le regarder parfois, mais donc certes ça prendra un peu plus de temps, mais OSEO se positionnera réellement en ayant l'accord du banquier.
J'ai compris, mais je voulais dire dans la présentation du dossier faite en tant que porteur de projet. Vis-à-vis d'OSEO, une fois que le dossier...
Pardon, on est sur la contre-garantie. C'est sur du financement, oui, sur la contre-garantie, non. Parce que derrière, c'est leur métier, ils suivent et puis ils font bien leur métier et ils répondent. Et ils sont là, sur 2009, ils sont encore plus présents que par le passé. Et donc, ils sont là pour relancer et donc, ils suivent. Donc, si le banquier dit oui, Oseo, dans l'ensemble, dit oui, ils prennent les risques, ils sont là pour ça. Et dans l'intérêt de tous, pour que réellement tous les porteurs de projets soient... ils voulaient payer les sociétés en direct et respecter...
sur la contre-garantie.
Sur la contre-garantie.
Alors, là-dessus, il y a 2-3 ans, je sais que certaines personnes chez Oseo aimaient bien avoir au moins le porteur de projet au téléphone, discuter avec lui, essayer de le connaître, etc. Maintenant, là-dessus, je ne sais pas s'ils le font toujours. Ça vaut le coup de leur poser la question. Ils sont sur le salon, évidemment. Mais je crois qu'ils sont de plus en plus engorgés, ils ont de plus en plus de dossiers, qu'ils n'ont plus le temps de recevoir ou de parler au téléphone avec les porteurs de projets.
Là, je parle en leur nom. Hein. C'est-à-dire, je suis avec eux régulièrement au téléphone, donc je répète ce qu'ils m'ont dit. Hein. Je me permets de prendre parole vu qu'ils ne participent pas à cette conférence.
Mais ils posent beaucoup de questions. Moi, je sais que mon banquier a beaucoup travaillé sur mon dossier quand je l'avais déposé. Et pendant près de 2 semaines, il m'a envoyé des mails le soir pour me demander pourquoi, dans le compte de résultats prévisionnels, telle charge était différente de celle de la cédante. Ils sont super précis et ils tiennent absolument à étudier les dossiers à fond.
Voilà. Et le banquier a l'habitude de travailler avec des personnes chez Oseo. Donc la personne que vous avez sollicitée n'est pas forcément la même. Donc quelque part, vous pouvez même peut-être pas aider dans ce sens-là, parce que le banquier travaille avec un interlocuteur bien particulier, avec qui ça marche bien, avec qui il a peut-être des délais de réponse plus rapides. Donc faut laisser le cycle.
Deuxième question, oui. Merci.
Un banquier m'a parlé d'une délégation sur la garantie de passif. Je trouve ça totalement ahurissant. Et je voulais savoir si c'est une pratique courante et ce qu'il la soit. Parce que dans mon sens, c'est complètement affreux. Quoi. Vous avez un problème sur votre passif, vous avez une garantie de passif, et le banquier garde le droit d'arrêter cette rentrée d'argent.
Non, attendez, parce que délégation sur la garantie de passif, là, je pense qu'on parle d'autre chose. Est-ce que vous ne parlez pas?
Alors là, c'est une garantie demandée par la banque.
La garantie,
hein.
Qui est un concept bien connu.
Non, non, vous parlez pas. C'est bien la banque qui, pour accorder son financement, demande la délégation de la garantie de passif.
Oui, mais la garantie de passif, c'est bien ce que je dis. Donc, on a le financement bancaire, c'est une chose. Là, c'est ce qu'on vient de voir en détail. Ensuite, vous savez que le cédant, en fait, la banque va demander à ce que cette garantie de passif sur laquelle le cédant s'engage, elle soit elle-même garantie.
Non, non, je parle bien de délégation de garantie de passif.
Okay.
C'est-à-dire que la banque veut, en cas de fonctionnement de la garantie de passif,
c'est ça.
Veut que l'argent arrive en fait chez elle.
D'accord.
Avant qu'elle ne donne avant qu'elle
D'accord.
ne vous le rende.
Okay.
Je trouve ça complètement
D'accord.
ahurissant.
Okay. Alors là-dessus, moi, je peux pas trop vous répondre vraiment précisément là-dessus. Il faudrait poser la question à un banquier.
Moi, en général, sur des dossiers, non, j'ai pas eu de je sais pas quelle est la banque qui vous a.
Faut pas la citer comme ça.
Non, non, mais enfin, à la limite, ça pourrait être voilà.
On en parle tout à l'heure.
Non, voilà, je
D'accord.
pense.
D'accord. On en parle tout à l'heure, vu que c'est un cas bien spécifique. Parlons-en après la conférence.
Allez-y, monsieur.
Oui, en ce qui concerne la garantie personnelle qui peut être demandée, on a vu qu'elle pouvait être limitée en pourcentage par rapport à l'emprunt, mais est-ce qu'elle peut être limitée dans le temps, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, et non pas la durée totale du financement? Il est sûrement au début.
Tout peut se négocier avec un banquier. Parce que c'est vrai que c'est très très dur d'obtenir, de ne pas obtenir de caution, mais il y a des porteurs de projets qui arrivent à obtenir, de ne pas obtenir de caution. Du moment où on a, comme dit Alexandre, un patrimoine, donc oui, un banquier sait qu'il prend le risque sur les 5 premières années. On peut très bien envisager d'avoir une caution qui soit simplement dans le temps, mais il n'y a pas de standard. Ça se négocie avec son banquier.
Mais se négocie.
Évidemment.
Oui.
C'est possible.
Une dernière question, puis comme ça, nous,
vous m'entendez? C'est sur les prêts d'honneur. Moi, c'est des questions très concrètes, basiques. Faut-il précédemment un prêt bancaire pour obtenir un prêt d'honneur?
Est-ce
que c'est indépendant?
Alors, c'est pas forcément. Simplement, un prêt d'honneur vient s'inscrire dans un plan de financement global. Ça veut dire que lorsque vous présentez au chef d'entreprise votre dossier, il faut que vous ayez une stratégie financière cohérente qui correspondent bien à la réalité économique aux prévisions que vous voulez présenter. Donc généralement, le prêt d'honneur ne se suffit pas à lui-même, évidemment. Donc on ne vous demande pas d'avoir bouclé ce plan de financement en ayant déjà obtenu votre emprunt bancaire, mais on veut que les choses paraissent bien engagées.
Non, mais le financement se passerait en 3 phases. Le premier, c'est apport personnel, prêt d'honneur et crédit vendeur. Donc sans banque.
C'est dans ce sens... Sans banque, généralement, le prêt d'honneur, quand même, il est là pour faire un effet de levier bancaire. Maintenant, on fait du cas par cas, on regarde tous les dossiers, on discute. Et c'est des chefs d'entreprise qui prennent les décisions.
Excusez-moi, Alexandre, là, je réagis directement par rapport au témoignage de monsieur, parce que pour moi, j'ai toujours entendu dire qu'un prêt d'honneur, c'est obligatoirement en complément d'un prêt bancaire.
Oui, c'est
j'ai
vraiment...
J'ai jamais entendu une structure, qu'elle soit réseau entreprendre ou plateforme d'initiative locale, enfin de quelques... Pour moi, c'est comme les antibiotiques, c'était automatique, quoi.
Non, mais c'était le. Ok. Ma deuxième question, c'est si, par exemple, donc je reprends une entreprise, mais je serai minoritaire, est-ce que également dans ce cadre-là, je peux obtenir un prêt d'honneur?
Alors pour nous, c'est non.
C'est niet. D'accord. Troisième question, parce que j'ai vu sur les critères d'éligibilité que vous mettez qu'il faut une date de création de 0 à 3 ans.
Oui, alors 3 ans, ça fait beaucoup dans une reprise, on est d'accord.
C'est ce que je veux dire. Parce que si je reprends une société qui a 7-10 ans, donc je ne rentre pas dans les critères.
Non, bien sûr. Donc là, on parle vraiment de nos critères sur la création.
D'accord. Maintenant, sinon, sur la reprise, ça peut remonter.
Sur la reprise, c'est vraiment un petit peu avant le closing, jusqu'à, on va dire, il faut que ce soit raisonnable, 6 mois, 1 an après le closing. Mais enfin, le but, c'est quand même de prendre en charge le porteur du projet de reprise rapidement.
Mais moi, je veux parler de la date de création.
Après, on peut regarder la date de création de la holding.
C'est ça, voilà. Parce que si j'ai déjà une holding, que je rachète une société, que je veux un prêt d'honneur...
Non, on va regarder la date de la reprise en elle-même.
D'accord. Merci.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je voudrais ensuite qu'on prenne un peu de temps. Ah, encore des questions. Ah, oui,
une question sur la garantie de zéro. Quel est le coût de cette garantie?
En moyenne, c'est 0,07% en plus du montant du financement. Ouais, bon, il y a les fonds de commerce, parce qu'on est sur 70%, on n'est pas sur 50%, donc il y a le coût aussi de la région, parce que OSEO monte à 50%, et ensuite peut monter à 70% avec la région, donc c'est 20%.
Et pour les prêts d'honneur, un peu plus, 1,2 pour le prêt d'honneur.
Merci, vous êtes trop fort. Alors, allô, ils ont réponse à tout, hein, allez-y.
Bonjour. Bonjour, moi j'ai une question sur la durée des financements, des prêts. Ils semblent bien installés le 5 et 7 ans. Or, on trouve plus. Quand on parle de fonds, on trouve plus. On trouve du 10, voire du 12 ans. Qu'on ne trouve plus du tout, par contre, quand on parle de parle sociale. Donc, le contenu n'est pas le même. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et quoi qu'il en soit, l'analyse du risque, je vois bien le rapport entre la durée, si vous voulez, du prêt, et la réalité du risque. Quand on prend des cartes sociales, effectivement, on absorbe aussi le passif, potentiellement. Mais j'aimerais qu'on m'explique cette différence.
Moi, 12 ans sur du fonds, à part la pharmacie, ou 10 ans sur de l'hôtellerie... Sur les fonds, c'est pas 12 ans, hein, c'est pas vrai. Hein. Les fonds, c'est 7 ans, hein, globalement. Alors, de toute façon, reprendre un fonds de commerce et le financer sur plus de 7 ans, ça veut dire que vous faites pas une bonne affaire. Quoi. À part sur des métiers hors normes, comme de la pharmacie, on finance sur 7 ans, mais vous n'allez pas reprendre la moyenne globale, la moyenne des fonds de commerce, c'est 7 ans. Donc on est sur les mêmes durées en général, que ce soit sur des fonds de commerce ou sur des parts sociales.
J'ai des propositions d'études de dossier. D'accord. Sur des fonds, pour la reprise de fonds, assez importants en valeur. Sur 10 et 12 ans. D'accord. Que je ne trouve plus quand j'achète la même entreprise, mais non plus le fonds, mais les parts sociales. Donc c'est ma question, c'était le delta. D'accord. Comment est-ce qu'il se justifie?
Je vous ai répondu, quoi. Moi, 10 ans, 12 ans, un fonds de commerce, je n'achèterai pas.
Alors, je pense que...
Ça, pareil, ça veut dire qu'il faut 12 ans pour rembourser, donc on est...
Non, ça améliore la trésorerie, c'est tout, c'est un choix de...
Mais vous trouvez...
Je pense que l'analyse du risque, pardon, Jean-Philippe... Jean-Philippe qui lui fait des dossiers tous les jours, donc effectivement
le risque n'est pas le même, c'est vrai, pour le banquier c'est pas le même, hein, parce que l'entissement de fonds de commerce a une réelle valeur pour le banquier, tandis donc quand on rachète un fonds de commerce, il appréhende directement le fonds. Le banquier peut prendre une garantie seulement sur la société à laquelle il prête, donc il peut nantir le fonds de commerce de la société qui achète. Lorsqu'on est sur une acquisition de parts sociales, le banquier ne peut prendre une garantie que sur la société mère, la holding, qui ne détient que les parts, donc ce qu'on appelle le nantissement de parts sociales. Ça n'a pas la même valeur, il ne peut pas appréhender la société cible. Donc le risque est plus important sur des parts sociales, mais moi je n'ai jamais vu, j'insiste, hein, et je fais ça depuis 5 ans, en dehors de métiers un petit peu atypiques, des financements de fonds de commerce sur 12 ans, validés par des banquiers, et qui vont jusqu'au bout.
Merci.
Je vous en prie. Je voulais juste relever une chose dans les conseils dans les conseils importants, juste un mot sur l'accord de principe. Banquier que vous allez voir, vous prenez un rendez-vous et puis il vous donne son accord de principe. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut ça?
C'est important, oui. Le banquier, quand il vous donne un accord de principe, tout est dans l'appellation. Le dossier n'est pas encore passé en comité. Donc, évidemment, il faut le prendre avec des pincettes, si je peux me permettre. Sur l'année passée, beaucoup de porteurs de projets sont venus nous voir en nous disant « Mon banquier m'avait donné l'accord de principe, devait me suivre. » Et du moment où le dossier ensuite passe en comité, il y a un refus. C'est symptomatique de l'année passée. C'est plus dur de trouver des financements. Donc, il ne faut pas faire confiance à un seul banquier, même si son banquier il est très important parce qu'il a fait confiance il a été présent. Il le sera peut-être demain, mais je vous conseille d'aller voir plusieurs banques et de bien partir du principe que le seul accord qui compte, c'est un accord ferme et en ayant demandé au banquier si le dossier est bien passé en commission de crédit.
Alexandre, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner ?
Un dernier conseil, assez général. Moi, enfin, vraiment, s'il y a un conseil que je dois vous donner, c'est sur l'analyse de la société, récolter un maximum d'informations. C'est ça qui est le plus précieux dans une opération de reprise. C'est vraiment bien vous imprégner des différents outils de pilotage, s'il en existe. Et c'est mieux généralement d'arriver sur une cible sur laquelle il y a déjà ce type d'outils. Bien comprendre le tableau de trésorerie, toutes les opérations, essayer de récupérer la comptabilité analytique pour pouvoir faire une analyse de la société la plus précise possible et pas se lancer dans une opération où on manque d'informations, où certains points restent obscurs, opaques.
Merci. Yaël, si vous avez un conseil à...
Oui, moi simplement être ultra programmatique, prendre son temps, surtout ne pas se presser, ne jamais s'imaginer qu'on va rater l'affaire du siècle, parce que l'affaire du siècle, je suis pas sûre qu'elle existe. Être assez sûr de son coup et être hyper conservateur sur les prévisions financières, parce que les choses se passent jamais comme on croit. On peut avoir des bonnes surprises, mais la plupart du temps, on en a plutôt des... Je dirais pas des mauvaises, mais enfin bon... On est quand même rappelé à des réalités un peu dures. Et puis, pour les banquiers, c'est une garantie de sérieux. C'est bien de croire à son projet, donc il faut quand même inspirer confiance. Et c'est pour ça qu'on est porteur, c'est pour ça qu'on est entrepreneur. Mais il faut aussi montrer qu'on vit dans le vrai monde et que c'est pas parce qu'on va ouvrir, en l'occurrence, moi, par exemple, j'ouvre un restaurant, c'est bon, personne m'attend, on est à Paris. Et il faut savoir que si on est animé d'un grand enthousiasme, la clientèle, elle va pas venir le premier jour pour autant. Et ça, si le banquier, il comprend qu'on le comprend, c'est un vrai plus et c'est quelque chose qui va inspirer confiance dans le projet. Et surtout, se faire aider un maximum. Ne pas hésiter à contacter des gens ex nihilo. Moi, j'ai téléphoné à des restaurateurs, j'ai écrit des mails, j'ai posé des questions. Allez sur des forums internet, vous abonnez à des magazines professionnels pour que vos données financières, quand vous avez des ratios, quand vous avez des normes, ils soient inspirés de la réalité. Voilà, donc chaque contexte professionnel a des spécificités assez fortes. Les ratios sont différents dans toutes les professions. Et donc, savoir de quoi on parle, en termes de loyer, de charges, de trésor, de délai de paiement fournisseur. On lit des trucs, on pense des choses, et puis après, c'est pas toujours la réalité. Donc, surtout, pas hésiter à beaucoup, beaucoup se faire aider, à demander plein d'infos. C'est pas grave d'avoir l'air bête. Après, on l'est moins.
Jean-Philippe, un petit mot de la fin avant que je conclue.
Oui, je reviens sur Yaël. Se faire accompagner, pour moi, c'est le plus important, mais à chaque moment du projet. Donc au départ, se faire accompagner, surtout dans le cadre d'une reprise de société, par un expert comptable qui va vous accompagner dans la constitution du dossier de financement, d'un avocat qui est déterminant dans la rédaction de la cession, qui va pouvoir aussi négocier pour vous le bail commercial. Le conseil qu'on peut donner en retour de beaucoup de cédants qu'on a accompagnés, c'est de laisser souvent l'avocat négocier pour soi, parce que finalement, il arrive que d'être en direct, en négociation avec le cédant, on n'obtienne pas forcément aussi facilement, et c'est plus facile d'utiliser une personne intermédiaire. Donc certes, ils ont un coût, mais ils peuvent en faire gagner. Donc vraiment s'appuyer par des professionnels, car on ne peut pas tout faire. Et en 2010, il sera plus compliqué. Il n'est pas facile de trouver des financements et il peut y avoir plusieurs personnes sur des affaires. Donc vous avez 3 mois pour aller jusqu'au bout. Donc vraiment ne pas y aller seul et pas se dire tiens c'est un coup, mais derrière il vaut mieux réussir une bonne acquisition que derrière éventuellement faire des erreurs que l'on paiera ensuite sur les années à venir.
Eh ben écoutez, moi je voudrais vous remercier tous les trois. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on a répondu aux vôtres. Et juste vous donner rendez-vous si vous avez pour l'instant aujourd'hui d'autres questions sur le stand de la CCIP qu'au deuxième étage. On a des conseillers qui font de la transmission et de la reprise toute l'année. Donc qui répondront, on répondra en tout cas à vos questions avec un grand plaisir. Merci à vous. Et je vous laisse juste ce petit slide là à méditer. C'est la première fois en fait. Jusqu'à présent, à chaque fois quand on disait mais pourquoi les projets ne se font pas, les repreneurs, donc les créateurs disaient ben, c'est à cause... On n'arrive pas à boucler les financements. Et là, pour la première fois, on est en 2010, les gens disent bah, c'est peut-être parce que les prix qui nous sont demandés sont peut-être un peu trop chers. Donc je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais je trouvais ça intéressant aussi qu'on en revient un peu à tout ce qu'on s'est dit là pendant une heure et demie. Hein, c'est que finalement, pour financer quoi? Si on finance quelque chose de trop cher, vous ne le financerez jamais. Et donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un très très bon salon. Merci à vous.